Ouais. Ce que je peux déjà dire, c'est que pour GPG, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, donc GPG, ça veut dire GNU Privacy Guard. C'est un système de chiffrement des mails et de signature des mails qui permettent donc de vérifier l'identité de l'expéditeur. On va vous détailler un peu plus comment ça fonctionne. Alors déjà, ce que vous pouvez faire si vous voulez faire fonctionner GPG, a priori, c'est installé de base sous Linux. Hop. Ah, je peux m'asseoir. Voilà. Vous pouvez déjà regarder si c'est installé de base sous Linux. Sinon, vous pouvez l'installer via Enigmail.
Sinon, je pense que... Qui n'est pas sous Linux, là ?
Okay. C'est même un Mac.
Parmi ceux qui ont levé la main... Parmi ceux qui ont levé la main, qui n'est pas sous Windows ?
Un Mac, c'est pas ici.
Bon. De quoi ? C'est bon, ils ont un GPG.
Donc normalement, vous avez GPG. Donc si vous ouvrez un terminal et que vous tapez GPG, le terminal devrait vous parler. Alors. Donc qu'est-ce que c'est que GPG ? Donc GPG, c'est donc comme j'ai dit, c'est un système qui permet de à la fois signer les mails et de crypter les mails, parce qu'en général, les mails circulent en clair sur le réseau, ça fait que n'importe qui pourrait les intercepter.
Oui.
Oui, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et donc du coup, GPG, c'est un protocole de chiffrement. Donc là, vous avez résumé différents... Voilà, les différents types de chiffrement qui existent aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, donc, que GPG, c'est le ça fonctionne avec le troisième point, c'est la cryptographie asymétrique, si je ne m'abuse. Ça veut dire qu'en fait, ça fonctionne avec deux clés. Il y a une clé publique que tout le monde peut voir et une clé privée. Grosso modo, quand on envoie un message à quelqu'un, ça va être chiffré avec la clé publique de la personne, qui va la déchiffrer avec sa clé privée. C'est plus sécurisé ça permet, et c'est moins lourd au niveau du nombre de codages à faire. De chiffrement à faire, en fait. Voilà. Pour les détails, c'est peut-être moins intéressant. Voilà. Donc la slide résume ce que j'ai à peu près de dire pour ce que fait GPG. Enfin, ça, OpenPGP, pardon. GPG, en fait, c'est plus précisément, c'est l'implémentation du protocole PGP. Enfin, en fait, PGP, c'est le chiffrement, puis GPG, c'est l'implémentation Linux, quoi, qui permet concrètement de mettre en place ces clés et le chiffrement. Ah, mais d'ailleurs, il y a un spécialiste de GPG qui vient d'arriver, qui va peut-être se faire victimiser dans quelques minutes.
Il va peut-être nous victimiser dans quelques secondes.
Donc, oui, parce que, Jiban, comme il y a eu un petit... changement de planning à cause du conférencier qui pouvait pas être là à 11h et qui est là du coup à 14h. Du coup, l'atelier GPG, c'est maintenant. Si tu veux te joindre à nous pour parler de GPG. Comment ?
J'ai dormi cette nuit la quantité nécessaire pour être debout.
Pas de soucis. Comment ? D'accord. Donc on va continuer. Si tu veux, on est là, du coup, la slide est un peu redondante avec ce que je viens de dire. Donc comme j'ai dit, GNU PG fonctionne avec une clé publique et une clé privée qu'il faut générer donc avec le logiciel GPG qui est installé. Je voudrais arriver à. Ça s'affiche, à directement. Hein ? Quoi ? Ça s'affiche pas ça ? Hein ? Je voudrais arriver au truc. C'est bon, comment je génère sa clé, quoi ?
Ah oui, c'est ça.
Ah, c'est celui-là ?
Oui.
D'accord. Alors, bon, alors là, le premier point pratique arrive si vous voulez générer une clé. Donc, la commande pour générer une clé, faut déjà commencer par lancer la commande GPG sur votre terminal, quoi. Donc, vous tapez juste GPG. Et après, donc taper espace tiret tiret gen tiret key là-dessus, ici. Et ça va vous générer une clé, typiquement. Donc vous pouvez essayer en live si vous avez un ordinateur devant vous et que vous n'avez pas de clé. Une fois que vous avez tapé cette commande, du coup, il y a ça qui s'affiche à l'écran. Et la première chose qu'on vous demande, c'est le type de clé que vous voulez. Donc il y a différents types de clés, donc RSA, DSA, DSA en signature seule et RSA en signature seule. En général, ce qu'on utilise, c'est le premier, RSA par défaut. C'est ça, oui. Je ne dis pas de bêtises. La différence subtile entre les, avec, les, avec, la dernière, avec les autres, avec la DSA, je ne suis pas sûre. Juste algorithme de différents, je suis pas différent, d'accord. Bon. Donc dans le doute, voilà. Quand on vous demande, je crois que vous appelez 1. Et pour qu'elle soit sûre, il faut qu'elle fasse une taille minimum 4096 bits. Voilà. Donc je sais pas si, si des gens ont des difficultés déjà avec ça ou pas.
Est-ce que vous avez tous généré une clé là?
Parce que oui, ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est que si ça vous, enfin, le principe aussi de GPG, ça j'aurais dû en parler avant, c'est de créer aussi un réseau de confiance. C'est-à-dire que parmi tous les gens qui ont des clés, il y a après la possibilité de signer les clés d'autres personnes. C'est-à-dire grosso modo certifier que telle clé est fiable, que vous connaissez bien l'identité de la. Enfin, quand on signe la clé GPG de quelqu'un. Faut vérifier son identité, vérifier que c'est bien lui, que c'est bien sa propre clé, et du coup ça veut dire quelque part que la clé est fiable, que quand on voit après un mail signé avec cette clé là et de tel expéditeur, on peut être sûr que c'est bien l'expéditeur qui l'a envoyé. Donc en gros l'idée c'est de pouvoir créer un réseau de confiance et et ça fonctionne en signant les clés d'autres personnes, et ce qu'on a prévu c'est que de faire, c'est demain après-midi faire une signing key où justement tous ceux qui ont des clés GPG vont pouvoir signer leurs clés et du coup étendre le réseau de confiance. Donc si vous n'avez pas de clé et que vous voulez en générer une aujourd'hui, ben voilà quoi, ça peut être le moment. Donc c'est bon jusque là.
Qui n'a pas de clé GPG?
Est-ce que vous voulez créer une clé GPG ou pas? Est-ce que jusque là vous avez réussi à suivre ce qu'on a raconté ou pas?
Parmi les gens qui n'ont pas de clé GPG, se demandent à quoi ça sert, enfin, concrètement.
Bon. Tu peux continuer. Du coup, c'est bon. Vous avez réussi à générer une clé déjà ou pas? Hein? Non? Ouais? Ok. Au-dessus, du coup, c'est bon. Ok, super. Donc, on va passer à la suite. Donc, ça, c'était pour le type de clé. Là, c'est ce qu'on a dit. Oui, l'intérêt donc d'avoir une clé plus longue, c'est qu'elle est plus dure à casser. Normal. Hein? Merci. J'ai compris. Alors, la deuxième étape qu'on va vous demander, c'est le temps de valider d'une clé. Sachant que choisir une clé de temps de vie illimité, c'est-à-dire le choix zéro, c'est pas forcément une bonne idée, parce que vous pouvez pas garantir ce qui va se passer. Le devenir de votre clé, elle pourrait être volée, oubliée, ou enfin plusieurs façons qui font qu'une clé peut devenir non valide. Du coup, mettre une garantie, enfin mettre une date d'expiration infinie, c'est pas forcément très pertinent. Typiquement. À la dernière install party, on avait plutôt dit que la bonne durée, c'était 3 mois. Dans la pratique, je vois plutôt des gens qui la mettent de 1 an comme durée. Parce que 3 mois, c'est vrai qu'il faut la renouveler assez souvent. C'est un peu barbant.
On oublie tout ça.
Voilà, on oublie. Et puis après, on envoie des mails qui sont signés avec des clés expirées. C'est pas très classe.
Par curiosité, hein, parmi les gens dans la salle qui ont une clé GPG, hein, combien ont une durée d'expiration de moins d'un an, strictement? Tu lèves la main.
C'est quoi ta date d'expiration de ta clé GPG? Voilà.
Bon, voilà.
Donc grosso modo.
Mettez des durées courtes, comme ça en plus vous êtes obligé de mettre à l'origine
Voilà, donc grosso modo, pour la clé elle-même, vous pouvez mettre une durée qui soit relativement longue. Après, c'est les sous-clés pour lesquelles il est intéressant de mettre une durée plus courte. Donc, moralement, je peux vous proposer, à mon avis, partir sur un an. Enfin, je sais pas.
Non, c'est bien.
Voilà, donc dans le doute, vous pouvez mettre un an, donc vous tapez 1Y. Entrée. Voilà, alors l'étape d'après, c'est
est-ce
demander...
Que... Ah, bon. Est-ce que tous ceux qui ont généré une clé ont fini de générer la clé, ça demande de l'entropie et ça prend un peu de temps. Okay.
Vous avez réussi à générer votre clé là-haut ou pas? Oui.
Ouais, ça prend un petit peu de temps de générer une clé de 4096.
Ouais, c'est ce que...
Ah, il te demande avant de générer? Ouais, c'est bon.
D'accord.
Oh, c'est après que pendant 8 ans. Hein.
Donc si ça lag déjà, c'est inquiétant. Donc l'information qu'on vous demande ensuite, c'est l'identité. Donc là, vous mettez le nom réel, enfin votre nom, qui est donc le nom propriétaire de la clé, quoi. Donc, par exemple, si vous appelez Heinrich Heine, vous mettez Heinrich Heine. Vous pouvez préciser entre parenthèses...
C'est
ça, d'accord. Donc ça, c'est le nom réel, donc c'est juste le Heinrich Heine. Votre nom, en l'occurrence. Mais ça, c'est déjà le code.
On revient sur le...
Bon, voilà.
Du coup, une fois que vous avez rentré votre nom, ensuite, il vous demande votre adresse électronique. Donc, vous entrez à priori... je rentre une adresse électronique. Donc, vous mettez une adresse électronique qui est la vôtre. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et sur le troisième champ, commentaire, vous mettez rien. Vous le laissez vide et vous validez. Sur l'étape suivante, ensuite, on vous demande si les informations sont correctes et si vous voulez en modifier l'une de celles que vous avez rentrées. A priori, donc, moi, je crée bien une clé pour Toto Passoir. Du coup, mes informations sont correctes. Et on arrive au slide suivant sur le tien.
Donc après l'étape suivante, c'est vous demander la phrase de passe qui va vous permettre d'utiliser votre clé GPG. Donc il faut que ce soit un mot de passe qui soit long. Enfin, plus c'est long, plus c'est sécurisé, forcément. Avec les conseils d'usage qui sont résumés sur le slide du dessus, c'est-à-dire pas de mot de dictionnaire, etc. Parce que c'est... Bon. C'est vrai que c'est le point faible de GPG, c'est que si quelqu'un récupère ce mot de passe, du coup, il peut utiliser votre clé. Ou il faut aussi récupérer la clé et le mot de passe, il peut récupérer la clé. Donc ça, on viendra... Ouais, vas-y. Ouais.
En fait, le concept de la phrase de passe, c'est que votre clé privée elle-même est chiffrée avec cette phrase de passe. Et donc, pour la déchiffrer, il faudra utiliser la phrase de passe. Donc même si quelqu'un récupère votre clé privée, il faudra encore qu'il casse la phrase de passe en bout de forçant ou en utilisant autre chose pour pouvoir accéder à votre clé privée réelle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de choisir une bonne phrase de passe. Ça va servir aussi pour vos sous-clés. Donc voilà, il faudra en choisir une qui soit assez longue. Mais grosso modo, pour que quelqu'un arrive à se faire passer pour vous dans le protocole GPG, il faut qu'il ait à la fois qu'il ait dérobé votre clé privée, enfin ou une de vos clés privées qui sont chiffrées avec votre phrase de passe et qui connaissent votre phrase de passe, ce qui est un peu compliqué. Mais le plus long, le plus court, c'est de casser la passe de phrase, pas de récupérer la clé.
Donc est-ce que c'est bon là où vous avez choisi une phrase de passe? Ok. Étape d'après. Alors, ça, c'est un point important aussi.
C'est à ce moment-là que la clé est RSA, a priori, puisqu'on vous dit de prendre RSA à générer la paire de clés. Hein, et c'est à ce moment-là que le système va avoir besoin d'entropie. Hein, et que là, par exemple, moi, il m'écrit dessus en disant qu'il n'y a pas suffisamment d'octets aléatoires disponibles. Veuillez faire autre chose pour que le système d'exploitation puisse rassembler plus d'entropie. Hein. Donc, bouger la souris, taper au clavier, ça re-remplit le pool d'entropie du système. Et normalement... au bout d'un moment, quand il en a eu suffisamment, il finit de générer la clé.
Comment ? C'est bon ?
Non, je sais pas, Jordan a un problème.
Hein ? Tout se passe bien ?
Non, c'est qu'il n'y a pas d'entropie. Il a mis du 4096. Ouais, mais c'est long, hein, 4096.
Mais moi non plus, j'ai pas assez d'entropie. Hein.
Des trucs, aller sur le web.
Lisez vos mails.
Oui, va écouter la conférence en même temps.
Oui, donc voilà, générer de l'entropie. Pendant ce temps-là, on va vous parler du certificat de révocation. Donc ça, il faut avoir la clé. Quand vous aurez votre clé, donc déjà je peux vous en parler, puis quand vous aurez votre clé, il faudra la faire. C'est-à-dire que le certificat de révocation, c'est le certificat qui est à publier pour révoquer la clé, si jamais la clé se trouvait être compromise, ou si elle était volée, ou perdue, ou quoi que ce soit. Donc c'est important d'en générer un, et de le stocker ailleurs que sur votre ordinateur, a priori. Pour en générer une, il faut que taper cette commande-là, à partir de gpg -output, révocation type.asc, c'est le fichier dans lequel vous allez mettre le certificat de révocation. Donc là, on a choisi un .asc, mais ça peut être un autre format. Et ensuite, la commande gen-revoc et l'identification de la clé. Donc l'identifiant de la clé, il vous sera donné quand la clé sera générée. Je ne sais pas si c'est bon déjà, du coup, là-haut. À droite, c'est toujours pas bon pour tout vous soir.
On attend un peu sur la commande que vous voyez marqué révocation type. Type, c'est parce qu'on va vous faire générer deux types de certificats de révocation, un de vol et un de compromission, qui n'ont pas la même valeur aux yeux des gens. C'est-à-dire que si vous avez un de vol ou de perte et un de compromission. C'est-à-dire que quand vous allez révoquer votre clé pour diverses raisons, c'est moins grave si vous l'avez perdue que si vous êtes sûr que quelqu'un vous l'a compromis. Et donc on va vous faire générer deux types. Donc en pratique, vous allez écrire par exemple gpg-output révocation underscore compromission.sc et l'autre underscore perte.sc. Valentin, c'est bon ?
C'est pas toujours pas fini.
Bon, moi ça fait un peu long le temps de.
Tant que les gens génèrent leurs clés.
Est-ce que ceux qui sont à l'étape de générer leurs clés ont assez d'entropie ou pas ?
Alors, si vous n'avez pas assez d'entropie, il y a une commande qui s'appelle GetGir, elle en génère plein. Vous lancez ça en parallèle sur votre machine, alors vous générez la clé. Ça fait un peu de bug, mais ça fait de l'entropie.
Il marche là ? Est-ce que ça marche ? Ouais.
Non. Qu'est-ce qu'il doit y parler après ? On peut parler d'utilité, du coup.
Bon, ceux qui sont en train de générer les clés, vous faites signe dès que vous avez fini de générer votre clé. Comme ça, on peut passer à l'étape suivante. On va parler un peu des principes après de
la gestion du trousseau, enfin de la clé.
De la gestion du trousseau, mais on reviendra sur vous dès que vous aurez fini de générer votre clé. Ouais.
Vas-y, digresse. Tu peux faire une digression au micro si tu veux.
Tiens.
Pas vraiment.
Non, mais même avant de commencer à générer des clés et avant de commencer à servir de GPG, il faut se demander pourquoi on veut chiffrer les communications. Il faut se demander à quoi ça sert. Réellement, est-ce que... Oui, je vais faire encore ma paranoïa. C'est-à-dire que réellement, qu'avez-vous à protéger ? Pourquoi chiffrer les communications ? C'est-à-dire, qui vous en veut ? Bon, moi, d'accord, je sais. Mais est-ce que vous voulez vous protéger de particuliers, d'entreprises, du gouvernement ? Est-ce que vous voulez vous protéger d'une attaque ciblée ? Est-ce que vous voulez vous protéger d'attaques généralistes ? Si vous voulez vous protéger d'attaques ciblées, vous pouvez rentrer chez vous. Actuellement, c'est très dur de protéger d'une attaque ciblée. D'un gouvernement, en tout cas. D'une attaque à grande échelle, d'analyse globale des communications, vous pouvez vous protéger. Par contre, si vous chiffrez vos communications, est-ce que vous allez réellement vous protéger ? Généralement, non. Parce que généralement, ce n'est pas le contenu des communications qui les intéresse. Généralement, c'est l'existence de communications. Donc, réfléchissez bien avant d'utiliser GPG si cela correspond à ce dont vous avez besoin. Et c'est pas parce que vous utilisez un système de chiffrement et de signature que cela vous protège. En particulier, si vous racontez exactement la même chose dans un mail chiffré que ce que vous avez publié sur un réseau social, ça sert pas à grand chose.
Ouais, c'est quand même moins lisible quand c'est un mail chiffré que sur un réseau social.
Oui.
Oui, l'information est la même.
Bah, vas-y, tiens.
Non, mais il y a aussi le problème de la persistance du chiffrement, c'est-à-dire des données qui sont stockées au temps T, des données chiffrées, qui sont enregistrées et stockées sur un disque aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, elles seront complètement déchiffrables. Donc, on ne peut pas s'assurer d'avoir des données chiffrées sur un temps infini. Voilà.
Donc, une fois que vous avez pu essayer que vous avez un objectif de protection, vous pouvez utiliser GPG. Une fois que vous savez ce que vous voulez protéger, quelles sont les garanties que vous voulez apporter. Donc, dans cet atelier, c'est plutôt centré sur comment se servir de GPG, mais n'oubliez jamais à quoi ça sert, quel est son usage, quelles sont les précautions que je dois prendre pour m'en servir. Sinon, c'est complètement inutile. Le facteur humain est essentiel, oui, c'est un très bon résumé. C'est...
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocat et j'ai pendant très longtemps été l'initiateur du seul cours de droit des télécommunications en France. L'expérience me dit, et maintenant je suis un vieux brontosaure en fin de cycle, mais je ne connais pas de système qui soit étanche, efficace dans le temps. Ça n'a jamais marché. Pour une raison très simple, c'est que quel que soit le génie et la compétence technique que l'on peut appliquer à un système, quel qu'il soit, que ça soit une clé, que ça soit tout autre dispositif, il y a le facteur humain qui intervient. Et la dégradation de la confidentialité et les méthodes d'exploitation des moyens mis en œuvre, généralement, c'est toujours, toujours le point faible. Je vous donne un exemple. Mais je parlais tout à l'heure à certains de vos camarades d'un réseau qui est crypté et que l'on utilise, nous, dans notre profession d'avocat, en permanence, désormais, et qui est d'ailleurs le seul moyen de signifier des écritures quand on est postulant, c'est-à-dire qu'on représente les parties, c'est le RPVA. Ça nous donne l'obligation de fonctionner exclusivement avec des clés cryptées. Bon. C'est-à-dire qu'on engage complètement nos clients avec tout ce qu'on peut faire avec cette clé cryptée, puisqu'on peut prendre des écritures, accepter à la limite ce que l'adversaire demande, en toute tranquillité, et il suffit d'envoyer l'acceptation sur ce réseau, avec la clé cryptée, pour dire et pour finir un procès. C'est vous dire donc l'importance du moyen mis en œuvre. C'est d'ailleurs un moyen qui est, depuis le 1er janvier de cette année, totalement exclusif de tout autre procédé, y compris l'usage d'un support papier. Et là, les problèmes se posent. C'est que dans la pratique, et je ne voudrais pas dénoncer mes petits copains, mais dans des cabinets d'avocats, ces clés cryptées, elles sont à l'usage des secrétaires. Au point d'ailleurs que beaucoup de brontosaures comme moi ne savent même pas se servir de ces clés. Le résultat des courses, bien évidemment, quand vous balancez des écritures que personne ne les a relues, ça peut avoir des conséquences extrêmement redoutables. Vous oubliez un zéro dans une demande, vous imaginez le problème. Bon, mais on va beaucoup plus loin, c'est que c'est un moyen interactif qui est utilisé avec les tribunaux, les cours d'appel, les cours de cassation, aussi bien au civil qu'au pénal. Or, le problème qui se pose, c'est qu'on nous notifie des décisions par le même biais. Et ces décisions, on les lit, mais elles ne sont pas signées des magistrats. On n'a même pas la certitude que le draft qui nous a été envoyé ait été relu par le président qui a rendu la décision. Il n'y a même pas la signature du greffier. On l'a, au bout de quelques temps, sur support papier, à la toque, comme on dit, c'est-à-dire à notre vestiaire, et on peut s'assurer qu'il n'y a pas eu de rectification en cours de route par rapport au document qui nous a été notifié, mais qui fait courir des délais, et sur lequel on peut faire appel dans des délais parfois très brefs. Quand c'est une décision de référé, c'est dans les 15 jours du prononcé, donc ça va très vite. Bon, donc, et on s'aperçoit, et l'expérience le montre, que malgré ce dispositif qui est rendu obligatoire et légal, puisqu'il a modifié certaines dispositions du Code de procédure civile, eh bien on se trouve avec des zones totalement grises, où on a très peu de certitude sur, finalement, le contenu même des documents qui nous sont balancés, et que ça tient en toute certitude que si des personnes travaillant avec vous, travaillent en toute confiance, bien sûr, mais ne se trompent pas non plus. Et s'il y a une erreur, elle est commise au niveau humain, et quelle que soit l'identification, quelle que soit la sécurité qu'on aura pu mettre dans le processus, eh bien, le résultat est quand même assez problématique. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. De même qu'on peut lire facilement, bien évidemment, et quel que soit le degré, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, un disque dur, on est dans des situations où, malheureusement, on est dans des systèmes où il n'y a aucune certitude et aucune assurance. Et ça, quand je lis « Une bonne gestion des clés est cruciale », là, je dis « Ok, absolument vital », mais on est vraiment là dans une urgence personnelle constante.
D'ailleurs, du coup, on va peut-être pouvoir commencer à vous parler de comment gérer les clés. À droite, Valentin finit de générer sa clé. Je ne sais pas si, du coup, c'est bon pour les personnes qui avaient généré les leurs ou pas. Vous en êtes où, là-haut? C'est bon? C'est bon? Ah, super. Merci pour les interventions. Du coup, on va pouvoir commencer à vous parler de la suite pour la gestion des clés. Donc, les... Hein? Oui, les certificats. Donc, la première chose à faire maintenant, c'est de générer un certificat de révocation, donc, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Donc, je vous laisse, si vous voulez, taper la commande ici. Vous arrivez à lire. Donc, c'est gpg, espace, tiret, tiret, output. Après, espace, le nom du fichier dans lequel vous allez stocker le certificat de révocation. Espace, tiret, tiret, gène, tiret, révoque, puis identifiant de la clé. C'est bon pour vous ?
Okay.
Peut-être préciser ce que c'est l'identifiant de la clé.
L'identifiant de la clé, donc c'est quand vous générez votre clé, il y a un identifiant qui... Alors ça se présente. C'est le numéro qui est marqué en face de ce qui est marqué pub, donc qui veut dire clé publique, enfin qui correspond au numéro de votre clé publique. Vous avez d'abord 4096R, donc ça c'est la taille de la clé que vous avez générée, slash un numéro qui est l'identifiant.
Donc voilà, c'est un numéro en hexa de 8 caractères.
Donc si c'est bon, on va passer à la suite. Donc alors, comme on commentait tout à l'heure, c'est important de bien gérer ses clés. Donc...
On peut peut-être leur demander pour le type de certificat.
Ouais. Ah oui, donc là.
Donc, dans l'ordre, une fois
qu'on. On parle des certificats, du coup.
Ouais. La commande de génération d'un certificat de révocation. Donc, faut-il créer un certificat de révocation pour cette clé? Oui, non. On veut en créer un, donc oui. Et il demande la raison de génération du certificat de révocation. Donc, qu'on peut détailler qu'on a le choix entre plusieurs choix possibles. Donc, aucune raison indiquée, la clé a été compromise, la clé a été remplacée, la clé n'est plus utilisée, annulée. Donc, ça peut être utile de générer deux certificats différents, un pour la clé a été compromise et un pour... Non, uniquement, en fait, pour la clé a été compromise, et de le stocker quelque part ailleurs. Comme ça, si jamais, par exemple, quelqu'un rentre par infraction chez vous et vole votre PC... Donc, il emporte avec lui votre clé privée qui est sur votre disque dur. Mais comme vous avez stocké un certificat de révocation ailleurs, possiblement, pas forcément sur une machine sûre, il ne faut pas que n'importe qui puisse envoyer le certificat de révocation et révoque votre clé. Hein, mais si jamais quelqu'un le fait, ce n'est pas catastrophique non plus. Hein. Et donc, je reviens sur mon scénario où quelqu'un a volé votre ordinateur. Vous pouvez révoquer votre clé tranquillement. Et comme ça, tout le monde est au courant que votre clé a été volée. Hein.
Donc typiquement, ça veut dire que le certificat de révocation, il faut l'avoir enregistré aussi ailleurs que sur votre ordinateur. Non mais, on s'en précise, quoi.
Donc,
en général, c'est garder
le certificat de révocation à côté de la clé, c'est
voilà. Et la clé privée principale, il faudra la mettre aussi ailleurs que sur votre ordinateur, normalement.
Donc là, moi je choisis le choix 1, donc générer un certificat de révocation pour la clé a été compromise. On me donne une description facultative pour le certificat de révocation. Moi, là, j'ai rien mis. Hein. Donc, j'ai juste entré deux lignes vides pour passer à la suite. Je dis que oui, je suis d'accord sur les informations suivantes. Et à ce moment-là, donc, j'ai besoin d'accéder à ma clé privée pour pouvoir générer le certificat de révocation. Et donc, GPSI me demande de rentrer la phrase de passe qu'on a choisie tout à l'heure pour la clé privée. Donc, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Oui, voilà. Et voilà, donc le certificat a été généré. Et donc, on peut le voir sur le dernier paragraphe qui a été écrit, effectivement, GPG conseille de placer le certificat sur un autre support et de le cacher quelque part.
Au fond du jardin, vous l'enterrez, et puis voilà. C'est bon pour les certificats de révocation ?
Okay.
Alors, donc ensuite, il y a... de quoi est composée votre clé, quoi, typiquement. Donc il y a la portion, il y a la clé publique qui est visible donc à l'extérieur. Et après, alors est-ce que c'est ici? Oui. Il y a possibilité de générer des clés secondaires pour si vous avez différents usages sur différentes adresses. Enfin c'est pour différentes adresses mail aussi.
Donc
si par exemple vous voulez utiliser vos clés avec différentes adresses mail différentes. Ça correspond, pour faire ça, il faut générer des clés secondaires, c'est pas la peine de générer plus. Non,
En pratique, votre clé principale, votre clé privée principale va vous servir qu'à signer des gens, et vous allez toujours signer ou chiffrer avec des clés secondaires qui sont sur vos machines à vous. Votre clé principale sera ailleurs, en général, c'est sur un support qui n'est pas connecté au réseau, c'est ce que préconise GPG. Pour avoir un support qui est connecté au réseau, mais que vous connaissez, vous. Mais voilà. Tout ce qui est support embarqué, genre type PC portable, vous allez stocker que vos clés, des sous-clés, sur vos ordis, qui seront signées par votre clé principale, et donc qui attesteront bien que ça correspond bien à vous. Et vous allez vous servir de ces sous-clés pour chiffrer et ou signer des messages ou des fichiers.
Plus fort, je crois.
Donc en fait, les identités sont stockées sur la clé principale. Donc c'est sur cette clé principale que vous êtes relié au réseau de confiance. Après, les clés secondaires vont vous permettre de cantonner par usage les clés. Donc par exemple, si vous faites de la signature de logiciel, vous pouvez avoir une clé spécifique à ça. Vous pouvez la révoquer séparément de la clé principale, etc. Donc en fait, ces clés secondaires permettent d'avoir des niveaux de sécurité au niveau de la gestion de la clé qui sont différents selon les usages de la clé sans compromettre la sécurité de la clé principale qui elle en fait va être uniquement utilisée pour le réseau de confiance d'une part et d'autre part gérer les clés secondaires voilà. En gros, si on résume
c'est-à-dire que si on vous vole ou on vous compromet une sous-clé c'est pas très grave en soi, vous perdez pas votre réseau de confiance. Enfin, si c'est grave parce que vous êtes fait piéger ou c'est volé votre ordinateur, mais en soi vous n'avez pas perdu votre réseau de confiance et les gens qui vous ont signé vous avez toujours gardé la liste des gens qui vous ont signé. Vous pouvez toujours générer des sous-clés à partir de ça, à partir de votre clé principale qui elle n'a pas été compromise puisque vous l'avez mis ailleurs.
Un peu plus évolué, il consiste à avoir une sous-clé
Voilà. Donc sinon, pour voir toutes les informations de votre clé, la ligne de commande à taper, c'est gpg espace tiré tiré edit keys. Et ensuite, l'adresse mail que vous avez mise qui correspond à cette clé, ou le nom de la... enfin, votre nom, ou l'identifiant directement de la clé, enfin, oui. Quelque chose qui caractérise la clé, quoi. Alors, l'autosignature, est-ce qu'on en parle maintenant ou pas? Parce que du coup, autosignature, c'était pas, peut-être pas essentiel.
Vas-y.
Bon, vas-y si tu veux.
Vas-y. En fait, au début, bah, en fait, tu peux passer à la slide.
Ouais.
Donc là, on vous disait sur la slide précédente de taper check pour avoir les informations sur votre clé. En pratique, vous avez envie de vous ajouter des identités, par exemple. Moi, j'ai une adresse mail à l'ENS, une adresse mail au CRANS. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est rajouter mon identité d'adresse mail ENS sur ma clé. Donc ça, vous pouvez le faire avec add UID, ce qui vous permet de rajouter des identités à votre clé. Et ensuite, il faudra donc resigner, s'identifier à votre clé principale. Vous pouvez ajouter des sous-clés comme Jiben l'avait dit tout à l'heure. Donc ça, c'est avec add key.
Et donc les sous-clés, vous les changez assez régulièrement en sécurité.
Et je crois que par défaut, il n'y a pas de sous-clé de signature, donc il faut en ajouter une aussi. Avec la commande add key.
Par défaut, on utilise la clé principale pour signer tout et la clé de chiffrement pour chiffrer. Ce qu'on a, c'est que ce qu'on peut faire, c'est utiliser une clé de chiffrement et la clé principale, on peut utiliser uniquement pour signer dans le cadre de fonction, c'est-à-dire signer les identités de soi,
Voilà, donc sinon, après, pour gérer vos sous-clés, vos identifiants, vous pouvez les sélectionner avec la commande key, suivie du numéro de la clé ou de l'identifiant qui correspond. Vous pouvez les supprimer avec la commande del key ou del uid, pareil, suivie du numéro qui les caractérise. Donc voilà, pour la gestion rapide. Bon, là, il y a d'autres commandes. Alors, pour la révocation. Je vais faire un commentaire sur...
Ouais,
sur la slide précédente.
En fait, supprimer ces sous-clés, c'était écrit sur la slide. Mm. Ça ne fera grand-chose. En fait, si vous les envoyez sur le serveur de clés publiques, elles vont être restaurées. Donc, en fait, il vaut mieux révoquer ces sous-clés que les supprimer, parce que ça, en pratique, ça ne sert à rien. Si vous voulez, vous allez après envoyer, si vous faites un usage, comme on fait nous, de GPG, c'est-à-dire que vous voulez dire au monde que ces identités, c'est bien vous, et ces clés, c'est bien vous. Vous allez envoyer sur les serveurs de clés publiques. Et grosso modo, si vous supprimez votre clé, vous avez l'impression que votre clé est supprimée, mais elle est toujours sur les serveurs de clés publiques. Et quand vous allez rafraîchir les clés, elle va se retélécharger. Donc en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on révoque ces clés secondaires dont on ne veut plus, ce qui va ajouter dans les serveurs de clés publiques une ligne disant que cette clé a été révoquée.
Oui.
Voilà, vous avez votre bloc de données à vous, sur votre clé, sur le serveur de clé publique. Vous pouvez juste ajouter des données à la suite. Et la donnée, ça peut être très bien. J'ai révoqué cette clé-là.
Voilà, donc du coup, pour révoquer les commandes, c'est refkey pour évoquer les clés, refseek pour révoquer les signatures. Donc voilà, pour ce qui est de la révocation. Une chose, donc, quand la clé arrivera à date d'expiration, il faudra renouveler sa validité. Et pour ça, donc, c'est la commande expire. Donc, vous connectez, vous lancez le GPG sur un terminal, vous tapez expire, puis le. Vous tapez l'identifiant de la clé. Comment ? Enfin, l'identifiant de la clé après. Voilà. Mais bah quoi ? C'est expire puis l'identifiant de la clé ?
Bah, c'est bon, tu peux sélectionner.
Soit vous sélectionnez la sous-clé avant, puis après c'est expire, soit c'est expire, puis directement l'identifiant de la clé. Et après, il faut remettre la durée pour laquelle c'est valable.
Donc Expire, ça va, si vous l'utilisez sous clé, ça va resigner votre clé pareil avec votre clé principale, donc, en disant qu'elle est valide jusqu'à temps.
Alors
valider d'autres clés.
Voilà. Ouais, pour valider les clés, une chose importante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la fingerprint. En gros, ça permet de vérifier ça permet de faire un match, de vérifier que c'est bien la bonne clé qui correspond bien au bon utilisateur. Pour visualiser la fingerprint qui correspond à votre clé, faut taper donc FPR ou -- fingerprint. Et au moment, en fait, ça c'est surtout utilisé au moment de signer la clé de quelqu'un d'autre. On vérifie, on peut par exemple importer la clé publique depuis un serveur, etc. Et ensuite vérifier la fingerprint sur l'ordinateur directement la personne.
Un petit scénario, quelqu'un vous envoie un mail signé. Donc vous recevez un mail signé, vous voyez qu'il est signé, et vous n'avez pas la clé publique correspondant à cette signature pour la vérifier. Donc vous allez sur un serveur public de clé et vous demandez à télécharger l'accès public, l'accès à clé publique, et hop, vous l'avez sur votre ordinateur et vous pouvez vérifier que le mail a bien été signé avec cette clé publique. Le client mail, en général, s'occupe de le faire tout seul. Donc, par contre, à ce moment-là, même si vous savez que ce mail a bien été signé avec cette clé publique, rien ne vous assure. Oui, bien, même si vous pouvez vérifier que le mail a bien été signé par l'identité attachée à la clé publique, rien ne vous assure que cette identité est valide. A priori, là, moi, je suis en train de créer une clé en mettant comme identité TotoPassoir. Je pourrais ensuite envoyer des mails en les signant et les gens pourront vérifier que les mails ont été signés par TotoPassoir, qui est une identité complètement fictive et donc qui, a priori, assure de rien.
Voilà.
C'est à ce moment-là que, pour pouvoir faire confiance à une clé, finalement, vous allez rencontrer la personne qui a émis la clé, puis vous allez vérifier qu'elle a bien, c'est bien la personne qui a dit qu'elle est. Et donc, pour ça, elle va vous dire, ma clé, c'est la clé qui a le fingerprint temps. Vous pouvez regarder sur votre ordinateur que vous avez bien la clé qui a le fingerprint temps, et donc vous pouvez être sûr que c'est bien sa clé à lui.
Voilà. Ensuite, vous vérifiez l'identité de la personne. Ce qui est très très important en fait si vous comptez diffuser les clés sur les serveurs de clés publiques. Parce que vous, en fait, quand vous diffusez les clés sur les serveurs de clés publiques, vous dites au monde que cette personne, ces identités-là appartiennent bien à cette personne-là. Donc vous vérifiez en pratique ces papiers d'identité. Là, ça fait non, mais oui. Ouais. Ouais, mais ça c'est dans le cadre où où tu n'envoies pas la clé sur les serveurs publics et toi tu veux te faire un réseau de confiance en local. Mais du moment que tu l'envoies sur les serveurs publics, tu dis au monde que cette personne-là est ce qu'elle prétend être. Hein. Oui, voilà.
Oui. Si t'avais une carte d'identité, c'est déjà.
Oui. Ouais, donc en pratique, oui. En voilà. Pratique, on utilise soit un passeport, soit une carte d'identité pour vérifier l'identité de la personne en face, si vous la connaissez.
Mais ça, peut-être, on pourrait préciser plus pendant la scène Inky, en fait. Oula. Comment on t'appelle ?
Voilà. Et une fois que vous êtes assuré de l'identité de cette personne, donc vous pouvez éditer la clé avec la commande Edit Key.
Signé, tu veux dire ?
Non. On peut éditer sa clé une fois qu'on l'a apportée. Et donc après, vous pouvez la signer avec la commande Sign.
Voilà, et donc ça concernera peut-être plus la partie Signing Key demain. Quand on signe quelqu'un, du coup, on peut aussi mettre un niveau de confiance concernant, en gros, la confiance qu'on accorde à la validité de la clé de la personne qu'on signe. Il y a 5 niveaux. Le niveau 1, c'est vous savez que vous signez quelqu'un, on ne sait pas vraiment pourquoi vous signez, parce que finalement, vous ne savez pas du tout, vous ne savez rien de la personne. En général, ce qu'on utilise plutôt par défaut, c'est le niveau 3.
Jamais voilà. Plus que 3.
Jamais plus que 3, sinon c'est un peu ambitieux, quoi. Ah bon?
Mais oui.
Voilà, donc le réseau de confiance, du coup il y a le slide ici qui en parle. Donc ça c'est une gestion, enfin c'est votre gestion personnelle, c'est à vous de voir comment, quel est le degré de confiance que vous accordez aux clés de vous signer. Donc comme vous l'a expliqué Jiben. Donc la validité des clés, donc c'est pareil, ce dont vient de vous parler Jiben, c'est-à-dire que vous pouvez considérer qu'une clé est valide si vous l'avez signée personnellement ou si suffisamment de personnes dont vous avez signé les clés considèrent que cette clé est valide. C'est le principe d'un réseau de confiance. Enfin, qui...
Donc, ouais. par défaut de base, dans l'UPG, le réseau de confiance dit si une personne a été signée en full, enfin si vous avez signé une personne en full, alors les personnes qu'elle a signées, elles... Enfin, vous attestez bien leur identité. Sinon, pour vérifier l'identité de quelqu'un, il faudra 3 personnes que vous avez signées en niveau 3, donc marginal, pour faire confiance à la clé de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, vous pouvez propager ça comme ça jusqu'à 5 étapes, non ?
Du coup, là, on va peut-être accélérer un petit peu. Principe de serveur de clé.
Quels sont les intérêts des clés multiparties ? C'est pouvoir valider des gens, faire pouvoir communiquer avec des gens qu'on n'a jamais croisé personnellement. C'est-à-dire qu'un système auquel on doit croiser tout le monde avant de communiquer avec lui, enfin croiser physiquement, c'est très très bien. Le principe de la confiance nous permet d'abolir cette contrainte, tout en en gardant une comme la mineure et d'avoir des chemins qui vont nous faire. Donc c'est pour ça que quand on a une PLPG, il est bien d'avoir signé un certain nombre de personnes pour avoir un réseau de confiance permettant de communiquer avec plus que 3 personnes.
Et là, ouais. Pardon. Donc du coup, le principe maintenant pour rentrer dans ce réseau de confiance, c'est d'envoyer ses clés sur un serveur de clés public. Le monde entier sait que vous avez une clé GPG et peut récupérer l'empreinte publique de votre clé. La commande pour envoyer sa clé sur un serveur de clés, c'est pas écrit là.
Sunkey.
Et je trouve.
Espace identifiant.
Ah, c'est là. Non. Sunkeys, voilà, c'est celui-là. Hein ? C'est bon, c'est celui-là. Voilà, donc c'est la commande suivante, si vous voulez exporter une clé sur un serveur de clé. Par défaut, du coup, si vous tapez ça, ça va être envoyé sur... Je sais plus quel est
le nom. Il y a un serveur de clé par défaut qui est dans un
lit. Je sais plus le nom. Comment ? Subtilise.jpg.
Subkeys.gnipg.net.
D'accord.
Voilà, sachant que les serveurs de clés se synchronisent entre eux à des vitesses
relatives.
Voilà, donc pour l'instant on va s'arrêter là parce que il commence à être tard et je crois que vous avez faim. Du coup, on reprendra, je pense, l'atelier GPG. Pour avoir plus de détails sur comment signer des mails, comment gérer ses sous-clés, le trousseau de clés, rafraîchir les clés, etc. Là, on fera ça pour le coup au Curie, vers 13h30. Au Villon, parce qu'on est au Curie. Vers 13h30, avant le début de la première conférence.
Et ceux qui se posent des questions peuvent demander autour d'eux de manière plus informelle. Il y a pas mal de personnes dans le public aussi qui s'y connaissent plutôt bien. Et je suis sûr qu'elles se feront un plaisir de vous répondre.
Voilà. Vous pouvez aller au Villon, du coup, manger. Il y a un buffet, il y a du champagne. Voilà. Merci d'avoir écouté.